France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Depuis les travaux d'Edouard Saïd, l'orientalisme est souvent compris, saisi comme une manière pour l'Occident de représenter ce qu'il appelle l'Orient en projetant sur lui des images parfois simplifiées ou fantasmées. Cette notion a surtout servi à analyser la façon dont l'Europe regarde et représente d'autres sociétés. Mais que se passe-t-il alors lorsque la peinture occidentale arrive dans d'autres régions du monde, par exemple dans les Andes, dans l'Empire moghol, au Caire ou encore au Japon? Comment ces images sont-elles reçues? Y sont-elles appropriées ou transformées? Et comment l'art européen, l'art occidental même, a-t-il été reçu en dehors de ces territoires? Un invité aujourd'hui pour nous éclairer, Nassim Aboudrar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien pensionnaire de la Villa Médicis, professeur d'histoire et théorie de l'art à la Sorbonne Nouvelle, et vous venez de faire paraître un ouvrage passionnant et magnifique, intitulé « Occidentalisme au pluriel, peindre à l'européenne dans le monde, 16e-20e siècle », un ouvrage qui a paru aux éditions Flammarion le 25 février dernier. Merci d'être avec nous ce soir dans « Question du soir ». Et je commence, Nassim Aboudrar, par le début, si je puis dire, par des éléments de définition. Qu'est-ce que l'occidentalisme, tel que vous le mobilisez dans cet ouvrage? Est-ce simplement le miroir de l'orientalisme?
Non, ce n'est pas directement le miroir de l'orientalisme, et surtout j'emploie occidentalisme au pluriel. Donc c'est pas l'occidentalisme, c'est les occidentalismes, et c'est important parce que l'orientalisme, vous l'avez parfaitement défini, c'est pas la peine que je revienne sur votre définition en introduction, c'est effectivement un regard porté sur une pluralité culturelle, beaucoup plus vaste évidemment que le foyer de ce regard, et c'est un regard occidental, européen, porté sur une extériorité qu'on appelle l'Orient, dans un sens très très large, et que Edouard Saïd, d'ailleurs, a tendance à réduire, en fait, au Proche-Orient, d'où il venait et qui l'intéresse plus. Moi, ce que j'essaie de regarder, c'est le contraire, c'est-à-dire que ce sont des cultures très différentes, éparpillées dans le monde et sur 4 siècles, pratiquement, qui reçoivent chacune à leur manière des propositions venant d'Occident et qui les réinterprètent. Et c'est ça que j'ai appelé les occidentalismes, c'est-à-dire la façon dont on reçoit des propositions qui sont, dans le cas de mon livre, des propositions picturales, exclusivement, mais je pense qu'on pourrait tout à fait étendre ma recherche, par exemple, à la musique.
Alors c'est ça la raison d'être de ce S à la fin d'occidentalisme, la raison d'être de ce pluriel, c'est le fait, au fond, que chaque culture extra-européenne a sa propre manière d'appréhender, de recevoir, d'accueillir, de retransformer aussi cet art inspiré de l'art occidental.
Chaque culture, bien entendu, et j'ajouterais chaque époque, et chaque, d'une certaine façon, chaque conjoncture, on reçoit pas des propositions, encore une fois, quand je parle de propositions, globalement, je parle de peinture ou de gravure, on reçoit pas des gravures, par exemple, chrétiennes du XVIIe siècle, de la même manière quand ce sont des Espagnols qui l'imposent en Amérique latine, ou quand on est un grand moghol en Inde, et que l'on fait venir des jésuites pour se faire offrir ces images, et que l'on est, voilà, le rapport de force est évidemment pas le même. Les situations ne sont pas comparables et la réception de ces œuvres est très très différente, en plus bien entendu des fondamentaux culturels qui font qu'elles ne seront pas du tout interprétées de la même manière.
Je voudrais vous faire entendre une voix qui plane au-dessus de votre travail, Nassim Aboudrar. Cette voix, c'est celle de Philippe Descola. Il était l'invité des matins de France Culture en 2021.
Avec un hachoir, par exemple, qui est à côté de moi, au bord d'une rivière, moi je vois un paysage parce que tout d'un coup il y a une perspective assez lointaine, il y a un horizon, je sors de la forêt et je vois un paysage qui est au fond déjà porté en moi par l'habitude que j'ai des marines hollandaises, des choses comme ça. Et mon ami hachoir à côté de moi voit tout à fait autre chose. Donc ce qui, dans ce que nous voyons l'un et l'autre, est pertinent, va différer. Par exemple, je pense que ça c'est quelque chose qui est très important, nous avons été l'une des rares civilisations dans le monde à vouloir non seulement émuler la vision humaine dans nos figurations, mais aussi à adopter un point de vue unique. un point d'observation unique. C'est pas uniquement la perspective qui rend cela possible, c'est visible dans beaucoup d'autres figurations. Or, ça tranche, par exemple, avec la figuration médiévale, où les points de vue sont multiples. Ça tranche avec, en fait, toutes les autres formes de figuration dans lesquelles on s'attache à montrer toutes les facettes d'un être.
Il nous dit beaucoup de choses extrêmement importantes, Philippe Descola. Commençons par le début de son intervention. Deux êtres placés face à la même image, deux êtres issus de cultures différentes, verront une image différemment.
Alors, ils verront une image différemment, bien entendu. Ce qui est, d'une certaine façon, le plus étonnant, c'est qu'ils la voient de manière pas si différente que ça, au fond. C'est un petit peu ce que j'ai aussi découvert dans ce livre.
C'est-à-dire
que ces images qui sont envoyées d'Europe, elles sont à chaque fois réinterprétées. Les résultats sont très différents les uns des autres, mais à chaque fois, on reconnaît quand même l'image initiale. Et on n'a pas de peine à la reconnaître. On joue sur des différences qui sont, on peut le dire, des petites différences.
Donc il ne faudrait pas faire croire non plus que l'image est totalement revue, renouvelée au prisme d'un regard nouveau.
Revue, renouvelée, ce sont des mots qui appartiennent aussi en partie à un langage assez actuel qui est destiné à rendre les choses tentantes. Donc j'ai envie de les faire mien aussi, parce que j'ai envie qu'on voit les images de mon bouquin qui sont effectivement très belles et très peu vues. Et oui, il y a un renouvellement du regard, il y a un déplacement. En ce sens, je souscrirais à ces mots revue, renouvelée. Mais en même temps, encore une fois, on voit bien de quelles images sont issues des images que je cite, il y a ce phénomène que j'appelle à un moment dans l'introduction à mon livre de bienveillante étrangeté. Par opposition à l'inquiétante étrangeté, ce que j'appelle la bienveillante étrangeté, c'est ce côté très plaisant, puisqu'il s'agit quand même de pièces qui sont toujours, presque toujours très très belles à voir, et où on joue sur des choses, on a l'impression de connaître, mais en fait on connaît pas tout à fait, c'est ce qu'on connaît mais différent, etc. C'est cet espace-là que je me cite.
Pour donner à entendre, Nassim Aboudrar, la richesse à la fois de votre travail et de votre livre, dont je redis qu'il est absolument sublime, je voudrais qu'on prenne quelques exemples bien précis, justement, pour montrer cette étendue. Prenons un exemple. Alors, la peinture coloniale des Andes. Dans les Andes, la peinture européenne arrive dans un contexte missionnaire et colonial. C'est d'abord ce contexte historique qu'il faut rappeler. Vous nous direz ensuite, dans un second temps, ce que les personnes y ont vu.
Oui, alors le cas des Andes est à sa main. Chaque cas est spécifique. Celui des Andes est assez spécifique.
Commençons par les Andes.
C'est le cas d'une extrême violence. C'est d'abord la violence des armes, mais c'est aussi, comme on sait, la violence de la maladie qui décime les Andins, qui décime les autochtones. Et puis. Le contexte aussi d'une très grande cruauté qui est attestée à l'époque. Alors, une des choses que l'on voit, ça c'est le premier point. Le second point, il se trouve qu'il y a une peinture andine, particulièrement autour de Cusco, qui est faite globalement à partir du XVIIe siècle, donc quand même quelques décennies après l'arrivée des Espagnols, par des descendants d'Incas. Et donc, il y a une dimension mémorielle, parce que ces descendants d'Incas, ce sont des Incas, ce sont plus directement des Incas. Ils n'ont pas connu eux-mêmes les fastes Incas. Et pourtant, ils vont faire passer dans une peinture chrétienne des éléments d'une culture qu'ils sont au fond un peu sur le point d'oublier. Donc là déjà, on saisit cette première différence. Ensuite, on se rend compte, alors ils apprennent la peinture à l'européenne, ils peignent à l'européenne, mais on comprend aussi que ce qui est fondamental, que rappelait Descola, pour un Européen, par exemple la perspective, est intéressant pour eux, mais au fond marginal. Donc alors que pour nous, en Europe, il faut le rappeler, la perspective, c'est, comme le disait en gros Daniel Arras, c'est l'invention d'un espace pictural unifié par opposition à une localité, c'est-à-dire à un certain nombre d'espaces. C'est à peu près ce que disait Philippe Descola tout à l'heure.
Pour eux, c'est secondaire.
Pour eux, c'est secondaire dans la mesure où il y a des perspectives locales. On va trouver, ce qui est un paradoxe, dans un tableau, des éléments peints en perspective et d'autres qui ne le sont pas. Ils jouent à annuler la perspective, ce que feront à leur manière les modernes autour de 1910, à peu près, mais pas avant. Donc, ils peuvent comme ça jouer de la perspective. Ça, c'est un premier élément. Et l'on comprend que ce qui est pour nous une vérité, c'est-à-dire que la perspective détient une vérité de l'être, est pour eux une des nombreuses manières possibles de saisir quelque chose qui n'est probablement pas la vérité. Là-dessus, à cela s'ajoutent deux choses qui me paraissent quand même intéressantes à souligner. Primo, énormément de sang. Une peinture ultra gore et ça saigne pas mal en Europe, en Europe aussi, parce que la contre-réforme réhabilite les martyrs et donc il y a pas mal de peintures avec pas mal de sang.
C'est en lien avec cette cruauté que vous évoquez?
Mais je pense, enfin je vois pas comment je pourrais l'exprimer, on pourrait le dire autrement, qu'il s'agisse d'ailleurs de la peinture andine à proprement parler ou de la peinture mexicaine, qui elle est beaucoup plus européenne, comme ça à voir, beaucoup moins différente de la peinture européenne, c'est la cruauté de cette peinture, c'est-à-dire le fait qu'on y saigne énormément, qu'il y ait des plaies terrifiantes, etc., c'est très spécifique. Et là, ça ne peut pas ne pas faire écho, il me semble. Et puis, il y a l'inscription des Incas eux-mêmes dans la peinture de Cusco, dans un décor qui est un décor en grande partie européanisé. Et donc, tout ce jeu des différences est, je trouve, extrêmement beau, extrêmement émouvant et très spécifique.
Et très, très bien illustré dans votre livre intitulé Occidentalisme au pluriel, vous l'avez dit et on le rappelle. Autre exemple, je voudrais que l'on s'inscrive cette fois-ci dans un autre univers, celui de l'Empire moghol, où cette fois-ci la rencontre entre la peinture européenne et cet espace-là se fait notamment par l'intermédiaire de missionnaires jésuites et des gravures qu'ils apportent à la cour impériale. Alors, qu'est-ce qui se joue justement dans cette rencontre?
Alors, d'une certaine façon, l'exemple moghol est presque le contre-exemple de l'exemple,
ça tombe bien,
de l'exemple sud-américain ou andin que nous avons évoqué il y a un instant. Dans la mesure où le rapport de force est cette fois-ci complètement différent. Il s'agit d'un empire puissant, l'Empire des Moghols, dont l'armement est d'une certaine façon plutôt supérieur à l'armement portugais, puisqu'ils ont des éléphants, qui sont des animaux de guerre, si je puis dire, hein, et très redoutables. Et donc, comme on se souvient, les Portugais n'ont que quelques comptoirs le long de la mer et ne pénètrent pas du tout dans l'empire. Et c'est un sultan, un empereur.
En deux mots, hein. Un sultan.
En deux mots, un sultan, un empereur, l'empereur Akbar le premier, qui est un empereur musulman, il faut le rappeler, hein, les Moghols sont musulmans, qui s'intéresse beaucoup aux religions, aux religions au pluriel, qui est d'une très très grande tolérance et aime les débats de pensée, et qui a entendu parler de jésuites, donc de chrétiens, installés à Goa. Et il a envie de faire leur connaissance pour discuter avec eux. Et il leur écrit, il leur fait écrire, parce qu'il ne savait pas écrire lui-même, mais il leur fait écrire par son vizir une lettre d'invitation. Les jésuites hésitent un peu. Donc on n'est pas du tout dans le cas d'un envahissement, vous comprenez bien. Les jésuites Mais d'une vraie rencontre. Les jésuites ont un peu peur, ils hésitent un peu. Ils hésitent 6 mois à peu près, mais des caractéristiques des jésuites, c'est certainement le courage. Donc, depuis Ignace, le courage physique, j'entends. Et donc, ils envoient les trois plus hauts d'eux-mêmes, les trois plus hauts d'entre eux, pardon, en bon français, à la cour, où ils sont magnifiquement reçus, et ils arrivent avec quelques peintures, des gravures, en particulier un livre en plusieurs volumes qui s'appelle la Bible Plantin, qui est une Bible en plusieurs langues, magnifiquement illustrée de gravures flamandes. Et il l'offre à l'empereur. Et l'empereur immédiatement regarde ces images. Et là, il y a une espèce de discours récurrent que l'on retrouve en Amérique latine, que l'on retrouvera au Japon quelques décennies plus tard, qui consiste en ce que les catholiques pensent qu'un certain nombre de gestes d'admiration sont des gestes de conversion. Et donc, on a les documents, et c'est assez extraordinaire. Donc, on lit chez les jésuites, qui envoient beaucoup de lettres en Europe.
Que l'empereur se convertirait sans le savoir.
Voilà, à la vue de la Vierge, l'empereur s'agenouille, l'empereur embrasse l'image, l'empereur pleure, l'empereur est ému, l'empereur va se convertir. Et on a la chronique d'Akbar, qui est rédigé donc par son vizir, qui est un document qui est traduit en anglais, pas en français, mais qui est donc lisible, et qui raconte lui aussi ses visites, et qui dit comment l'empereur trouve ces images fabuleuses, il les trouve très très belles, mais ça ne lui viendrait pas à l'esprit une demi-seconde de se convertir, et ça va faire partie de sa collection d'art.
Comment cela se traduit-il dans l'art moghol, dans la façon justement de représenter les images, de peindre à l'européenne, de représenter des images à l'européenne?
Alors, ça va se traduire de plusieurs manières, aussi belles que peu connu parmi nous. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas que ça se trouve pas dans des livres d'art. Hein, ce sont des livres d'art relativement rares et je vous remercie de souligner. Mais c'est vrai qu'un point dont je suis content dans ce livre, c'est de son iconographie. Je le dis d'autant plus que ça me permet de rendre hommage à l'iconographe de Flammarion, aux iconographes de Flammarion qui ont fait un boulot incroyable pour me trouver les images que je leur demandais, quoi. Mais ce sont des images effectivement assez peu publiées. Et donc ça se traduit de plusieurs manières. Alors, d'abord, Akbar et ses successeurs, ils sont trois, demandent à leur peintre de cour de se servir de ces images. Il y a un ordre qui est donné, qui est « voici des images européennes, je les trouve très belles, faites-en ce que vous voulez, mais faites-en quelque chose ». Je traduis en français courant, mais enfin, on comprend que c'est ça. Or, certains décident tout simplement de prendre la gravure et de l'insérer dans un décor oriental, dans un décor moghol, si vous voulez, qui ressemble un peu à ce qu'on appelle des miniatures persanes, d'un très grand raffinement. D'autres vont imiter l'iconographie de ces gravures, mais là encore, en jouant sur les couleurs, en jouant aussi sur l'iconographie, c'est-à-dire que des éléments qui, pour l'iconographie, sont des éléments déterminants. Je donne un exemple tout de suite, les blessures d'une martyre. S'il n'y a pas les blessures, il n'y a pas la martyre. On va trouver là la reproduction d'une martyre, je pense à Sainte-Cécile que je cite dans mon livre, sauf qu'elle n'a pas ses blessures de strangulation. Donc c'est plus une Sainte-Cécile, mais en même temps, c'est de toute évidence Sainte-Cécile, il n'y a pas de doute. Ils vont changer les codes couleurs qui sont très importants pour le repérage iconographique occidentaux, mais ils en feront à leur guise. Donc il y a comme ça une inventivité assez extraordinaire à partir d'un stock d'images qui leur est fourni et que de toute évidence ils aiment énormément.
Je voudrais qu'on se plonge, Nassim Aboudrar, dans un troisième exemple qui me semble là aussi archétypal d'un autre chemin, d'une autre possibilité justement de ces rencontres entre l'Europe et les représentations extra-européennes. Je voudrais qu'on parle de la peinture nord-américaine cette fois-ci, qui reprend là, en grande partie, hein, c'est vous qui le soulignez, la plupart des techniques picturales européennes, mais dans le même temps qui sert par ce truchement à construire une forme d'identité nord-américaine et états-unienne singulièrement.
Alors, merci d'en venir à cet exemple qui est effectivement un peu l'exemple limite et sur lequel je vais répondre à votre question, à votre remarque tout de suite. Ce que je voudrais peut-être indiquer pour cadrer les choses, c'est que dans une première partie de mon livre, je regarde ce que j'ai appelé le prosélytisme. C'est-à-dire qu'il y a une offre chrétienne, une offre essentiellement catholique d'images et donc le désir que ces images produisent une conversion. Dans la seconde partie, je regarde un phénomène plus tardif qui est plutôt situé à la fin du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, et qui est un phénomène d'appropriation. Et là, on se rend compte que l'appropriation des images occidentales est mise très tôt au service d'une forme de liberté, quand ce n'est même de subversion à l'endroit de la puissance occidentale. Et ça, c'est quelque chose qui est politiquement sur lequel j'aurais peut-être l'occasion de revenir. Alors j'en viens maintenant à l'exemple américain.
Le cas limite. Ce que vous appelez le cas limite, c'est-à-dire on est à la frontière d'un cas archétypal.
On est dans un cas limite parce que il s'agit des Nord-Américains. Ce sont des descendants directs d'Européens, des descendants directs d'Anglais, d'Irlandais, éventuellement d'Allemands. Enfin, je parle vraiment des premiers Nord-Américains. Donc, d'une certaine façon, ils sont Européens. Ils sont formés à la peinture européenne. Alors ils sont formés pour certains d'entre eux dès l'enfance et un certain nombre d'ailleurs sont carrément nés en Europe et ont leur première formation en Europe. Donc c'est pas une découverte. Mais ils sont les premiers aussi à se servir de la peinture européenne pour sortir de l'Europe d'une certaine façon. C'est très actuel. Je me rends compte que tout ça fait beaucoup d'écho avec l'actualité la plus brûlante, puisque globalement, ça commence là, quoi. Avec leur manière de faire de la peinture européenne et de se référer à des artistes européens, la peinture américaine nous dit, nous ne sommes plus des Européens, et voyez comment, voyez pourquoi.
C'est aussi une peinture qui décrit la façon dont les Américains, les États-Unis se perçoivent eux-mêmes, perçoivent l'espace dans lequel ils sont inscrits, perçoivent même la coloration, la nature, les formes de leur territoire et l'identité qui est liée à ce territoire.
Oui, les Américains se trouvent face à cette situation qui est décrite déjà à l'époque, hein, c'est pas mon interprétation. Dans la hiérarchie des arts en Europe, le sommet de la peinture, c'est ce qu'on appelle la peinture d'histoire. Il s'agit donc de peindre, d'une certaine façon, son histoire. Or, les Américains, au XVIIIe siècle, les Blancs ont le sentiment de ne pas avoir d'histoire, puisqu'ils viennent d'arriver, d'une certaine façon. Donc, ils essayent, mais l'histoire est très courte. C'est un pays jeune. Par contre, ils ont une géographie. Et ils ont un territoire. Et ce territoire est voué à l'histoire, et il est voué à une forme d'histoire tragique parce que leur territoire est sauvage. S'il n'était pas sauvage, il ne pourrait pas être conquis. Il y a l'idée d'une terra nullius, d'une terre qui n'appartient à personne, ce qui peut permettre l'ethnocide des Indiens. Et ce territoire est extraordinaire, et il est donné comme un territoire d'Éden, comme un territoire qui vient d'arriver. Mais il va falloir transformer ce territoire en histoire. Et transformer ce territoire en histoire, ça veut dire gâcher ce territoire par l'industrialisation, à commencer par le train. Et donc, ils ont cette conscience tragique que pour devenir les États-Unis, ils vont devoir détruire leur territoire pour faire histoire. Et ils vont, du coup, aider par la théorie d'un très grand théoricien européen lui-même, allemand, qu'on lit plus suffisamment aujourd'hui, qui est Alexander von Humboldt, qui a écrit Cosmos, 1845, qui est un des best-sellers du 19e siècle, un peu oublié, et qui décrit comme ça, qui est géographe, et qui décrit des territoires. Aidés par ça, ils vont, selon le vœu de Humboldt, transformer une géographie en histoire et faire de la peinture de paysage leur propre peinture d'histoire.
La voix d'André Malraux, maintenant, on est en 1974.
Dans une certaine mesure, l'invention capitale de l'Extrême-Orient a été de ne jamais tenir la peinture pour peinture. Attention que l'Europe, à l'époque religieuse, c'était la même chose que vous. Je veux dire que les sculpteurs des cathédrales ne pensaient pas qu'ils faisaient des sculptures. C'est une cathédrale. Bon. Et quand l'objet est né, au XVIe siècle, mais avant c'était comme vous, et votre rapport avec la peinture est toujours un rapport métaphysiquement essentiel, au sens étymologique du mot essence. Et cette essence se manifeste à travers le poème, à travers la peinture, à travers la musique, mais il s'agit toujours de l'essence. Tandis qu'on pourrait dire qu'en Occident, à partir d'un certain moment, l'essence a disparu, il reste l'objet.
Votre analyse, Nassim Aboudrard, de cette analyse malrussienne, est-ce que au fond, il voyait les choses d'une façon juste et décentrée, André Malraux?
Qu'est-ce que j'aimerais grasseiller comme lui. J'adore cette voix.
C'est une très belle archive également, oui.
J'adore ce genre de voix. C'est toujours très compliqué avec Malraux. C'est à la fois... la moindre phrase de Malraux...
mérite une exégèse à part entière.
Oui, mais surtout, revient à ça, c'est-à-dire que c'est à la fois super intéressant et fumeux. Et globalement, pour ce que j'en ai entendu, parce que par ailleurs, c'est pas toujours très, très, très facile, tout simplement, à entendre. Je pense qu'il saisit dans les termes qui sont les siens et qui sont quand même très datés quelque chose qui me paraît assez juste sur une forme de persistance culturelle qui est une idée très très malrussienne effectivement et qui me paraît se voir aussi dans un livre comme le mien, c'est-à-dire que la peinture, certaines peintures, c'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais la peinture chrétienne japonaise du XVIIe siècle par exemple est en grande partie de la peinture japonaise, des choses comme ça. Et en même temps, la manière qu'il a de le penser en termes d'essence, c'est quelque chose à quoi un constructiviste comme moi ne peut pas souscrire.
Je vous emmène sur un terrain, si vous en êtes d'accord, un tout petit peu moins fumeux. Je reviens sur la couverture de votre ouvrage « Occidentalisme, 16e, 20e siècle ». Pourquoi s'arrêter au 20e siècle ? L'occidentalisme a un début, on l'a compris, c'est l'ère moderne, mais a également une fin ?
Oui, clairement. L'occidentalisme a une fin et c'est ce qu'on appelle la globalisation.
Comment la globalisation met-elle un terme aux occidentalismes?
Tout simplement parce qu'il n'y a plus de spécificité d'un foyer occidental. Là-dessus, je vais vous donner un exemple, je pense, qui va rendre, j'espère, les choses assez claires. Je prends l'exemple du surréalisme. Bon, le surréalisme naît au milieu des années 20, globalement, entre la France et la Belgique. Mais cette date de naissance a pas grand sens dans la mesure où, immédiatement, il va y avoir des surréalistes, enfin, immédiatement, dans les 10 ans qui suivent, il y a des surréalistes égyptiens, des surréalistes brésiliens. Par exemple, ça n'a rigoureusement aucun sens de dire qu'un surréaliste brésilien ou un surréaliste égyptien est occidentaliste. Le surréalisme est d'emblée quelque chose qui s'inscrit dans le monde. Vous voyez, alors c'est déjà vrai dans les années 20, mais dans les années 20 c'est encore un peu avant-coureur. Mais dans la seconde moitié du 20e siècle, considérer, là il y a un débat sur lequel j'aimerais bien d'ailleurs travailler autour d'un phénomène que comme l'école de Casablanca au Maroc ou d'une manière générale, les peintures immédiatement postcoloniale en Afrique du Nord. Ce sont des peintures abstraites. Mais les peintres eux-mêmes disent « c'est nous qui avons inventé l'abstraction ». C'est nous, au sens les musulmans, d'une certaine façon, qui avons inventé l'abstraction. En quoi ? Ça se discute, mais ils n'ont pas complètement tort. Rapporter l'abstraction marocaine ou l'abstraction algérienne à l'abstraction européenne, ça n'a rigoureusement pas de sens.
Merci beaucoup, Nassim Aboudra, de cet échange. C'est lumineux, c'est réjouissant d'entendre ce type d'analyse, de voir aussi ces images que l'on trouve constellées dans cet ouvrage intitulé « Occidentalisme au pluriel ». C'est chez Flammarion. Merci d'être venu à Question du Soir. Merci également, un grand merci même à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bruno Barada, Inès Bouffartigue, Sébastia à la réalisation. Ce soir, c'était Françoise Lefloc et Dofa Guéride à la technique.